franceinter.fr.
Il faisait donc de la colle il y a 200 000 ans.
La colle va changer la vie de cet homme. Avec un seul tube, il peut enfin tout coller. Le verre, le bois, le métal, la porcelaine et même les plastiques.
Et ça, c'est quasiment ce que pouvait faire Néandertal à l'époque. Les prouesses techniques de Néandertal à la une de la science aujourd'hui avec cette étude publiée cette semaine et qui montre comment Néandertal aurait pu inventer de la colle plus de 100 000 ans avant Homo sapiens. Axel Villa, on en discute avec notre invité Antoine Balzo.
Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Alors vous êtes paléoanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'homme de Néandertal. Cette étude est assez originale, on pourrait presque appeler ça de l'archéologie expérimentale. Pourquoi ces chercheurs se sont amusés à faire de la colle à la manière de Néandertal? En somme.
Je crois que leur propos, c'était de prendre la question des compétences des Néandertaliens à l'envers. Parce qu'évidemment, démontrer que quelqu'un est capable de faire quelque chose, c'est complexe. On n'a que des objets rares dans les sites archéologiques. Donc là, ils ont vraiment pris la notion de colle totalement à l'opposé, en reprenant des expérimentations qui existaient, qui avaient été faites pour essayer de faire du goudron plutôt, avec des procédures un petit peu complexes, montrant que c'était difficile d'en fabriquer et disant qu'il y avait des limites pour fabriquer du goudron. Et là, leur objectif, ça a été d'essayer d'en faire, mais en testant différentes approches, en simplifiant au maximum la démarche et voir ce qui fonctionnait ou pas et quelles conditions il fallait pour que cela fonctionne et si c'était applicable par rapport aux connaissances des Néandertaliens et des capacités qu'ils pouvaient avoir à l'époque.
Alors finalement, c'est simple à faire ce goudron, cette poix pour un Néandertalien ?
On pourrait tous essayer dans notre jardin. Il suffit d'avoir un boulot, de récupérer l'écorce et de le chauffer en fait. Et finalement, la première de leur analyse, ça a été uniquement ça. Prendre un bout de bouleau, le rouler, prendre l'écorce, la rouler et la chauffer avec différentes approches, des choses très simples, simplement en mettant de la cendre, du feu et voir s'il se passe quelque chose, ou des procédés un peu plus complexes, mais toujours en utilisant des matériaux qui existaient au paléolithique moyen, donc des choses relativement simples, pas de métaux, pas de porcelaine, pas de contenant, mais en faisant du naturel, et ça fonctionne bien.
Bon, donc ça c'est publié dans Nature, hein, donc c'est tout à fait sérieux. La méthodologie, elle est compliquée justement pour parvenir à reproduire les gestes de Néandertal et aboutir à cette glue alors
ou pas ? Leur propos, c'est pas de démontrer que Néandertal l'a fait exactement comme ça, c'était vraiment de dire, on connaît des procédés pour le faire, certains ont expérimenté, ont utilisé des choses relativement complexes pour démontrer qu'il fallait maintenir une certaine température pendant un certain temps, et ça, c'était pas possible pour Néandertal. Là, l'idée, c'était, on enterre un bout de bouleau, on crame, on voit ce qui se passe, ça produit ou pas, et on enregistre plein d'informations. Le temps, la température et tout. Ils se sont rendus compte que finalement, du goudron, on pouvait en faire dans des conditions très variables, sans maintenir la température, sans avoir à surveiller de manière très précise et que ça fonctionne bien.
Le point de départ, c'est quoi ? On a trouvé souvent ces traces de goudron sur des sites néandertaliens ?
On en a trouvé des traces. Le site le plus vieux, il vient d'Italie, il a à peu près 200 000 ans. On a aussi une marque de doigt dans un pseudo-goudron. On a des restes de goudron sur des bases d'objets en pierre. Donc on avait des traces. La difficulté toujours, c'est de savoir pourquoi ces traces sont là. Et on peut toujours trouver des explications plus ou moins complexes, dire que c'est par hasard, dire que ça s'est formé après, et puis exclure la capacité de l'homme à le faire. Il y avait des éléments qui montraient que les Néandertaliens avaient utilisé parfois du goudron. Là, l'approche, c'était de dire, est-ce qu'ils étaient capables de le faire ? Faisons simple et voyons si ça fonctionne.
Et derrière tout ça, il y a l'usage du feu et la maîtrise du feu qui est toujours pas acceptée parfaitement pour Néandertal.
C'est ça, on est dans un débat un petit peu sans fin avec cette idée de Néandertal différent de nous et puis des archéologues, des préhistoriens qui veulent soit démontrer qu'il était comme nous, soit démontrer qu'il était complètement idiot et donc partent sur des raisonnements qui sont impossibles à tenir, c'est-à-dire qu'on prend des choses et on essaye de trouver l'évidence qui démontre que ce n'est pas possible qu'ils aient pu faire. Et le bon exemple, c'est le feu. Il y a plein de chercheurs qui proposent encore que Néandertal n'a pas su faire le feu.
C'est incroyable, parce que c'est bien antérieur à Néandertal, quand même, la maîtrise du feu, non ?
Probablement, mais justement, l'argument, c'est de dire qu'il ne le maîtrisait pas, il le récupérait. Et donc, on peut toujours prendre des données partielles et essayer de montrer ce qu'on veut. Et il y a des papiers où ils essayent de démontrer que bah, quand il faisait des périodes très belles, très chaudes, il y avait plus de feu, donc il le récupérait plus facilement. Et quand il faisait plus froid, il n'était pas capable de le faire. Mmh. Mais à chaque fois, il y a des biais analytiques. Et puis surtout, l'hypothèse de départ étant elle-même biaisée, ils arrivent à démontrer quelque chose qui n'a pas trop de sens finalement.
Alors si on part du postulat que Néandertal ne maîtrise pas le feu, comment il peut avoir accès à ce goudron? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario qui donne ça?
Simplement, il suffit de dire, il y a eu un incendie à côté, la forêt de bouleau a complètement pris, on récupère les écorces, il y a du goudron dedans et puis on l'utilise. Le problème de ce genre d'approche-là, en essayant de trouver comme ça des solutions un peu tirées par les cheveux, c'est que c'est presque plus compliqué finalement que d'imaginer qu'ils avaient un peu de feu, qu'ils ont mis du bouleau dedans et qu'ils ont simplement fait quelque chose qu'ils savaient faire.
À quoi ça leur servait alors cette colle, Antoine Balzo, néandertalien?
Alors, on en retrouve souvent sur les bases de certains outils en pierre. Alors, on a une connaissance partielle de tous ces matériaux-là, simplement parce qu'on a besoin de techniques modernes pour comprendre et bien étudier ça. Et ça fait peu de temps qu'on est capable de reconnaître la trace de choses qui sont plus visibles à l'œil, en fait. Donc, toutes les fouilles qui ont plus de 10, 20, 30 ans, forcément, on n'a que des données partielles, on ne peut pas interpréter ça. On progresse, on voit ces informations-là, et puis on essaye de comprendre à quoi ça sert. À la base d'un outil en pierre qui est pointu et tranchant, ça paraît assez simple d'imaginer que ça aidait à l'emmanchement et que ça permettait de le maintenir plus facilement. Faire un trou dans un bout de bois, planter un caillou et puis essayer de s'en servir, forcément la résistance est faible. Si c'est collé et bien maintenu, la résistance va être beaucoup plus forte.
Si on essaye d'arrêter de décrire Néandertal en le comparant à Sapiens, quel portrait on peut en faire aujourd'hui au regard des récentes découvertes?
C'est la difficulté à arriver à prendre assez de recul pour ne pas interpréter au regard de ce qu'on connaît de nous. En termes biologiques, Néandertal est différent d'Homo sapiens. Et justement, on a vraiment progressé dans notre connaissance de l'anatomie. On sait maintenant qu'il était plus petit que nous, un peu plus robuste. On a longtemps dit que c'était lié à l'environnement. Finalement, c'est probablement pas le cas. Et ils ont une structure du corps qui est différente, avec une colonne vertébrale beaucoup plus rectiligne que la nôtre.
C'est-à-dire qu'ils se tenaient plus droit que nous ?
Ils se tenaient plus droit que nous, mais c'est pas une question de tenue, c'est une question d'adaptation de l'ensemble de leur corps à la bipédie. On a toujours imaginé que la bipédie impliquait forcément une colonne vertébrale en S comme chez nous. Et là, en l'étudiant sans a priori, on se rend compte que Néandertal, qui était bipède, qui était aussi bien adapté que nous à se déplacer, à marcher, à courir, avait une colonne vertébrale différente. Donc ça montre que la biologie, ça marche comme ça. L'évolution va créer des résultats différents d'un point de vue anatomique, avec des espèces qui seront aussi fonctionnelles, adaptées les unes que les autres. Et le comportement, c'est un peu la même chose. On essaye de voir avec notre prisme l'utilisation qu'on peut faire des choses, adapter ça à Néandertal. C'est peut-être pas nécessaire de le faire, ils avaient sûrement des capacités assez importantes eux aussi.
Allez, une dernière question,
mais
Axel.
Si on cherche pas dans ces différences entre Sapiens et Néandertal le succès de l'un et le déclin de l'autre, où est-ce qu'on trouve cette réponse? Pourquoi Néandertal n'est plus là et pourquoi nous sommes encore là?
Ça c'est un très très long débat. Un problème, c'est qu'on cherche toujours à trouver des causes à des événements. Trouver le premier ou le dernier d'une espèce, d'un point de vue archéologique, c'est pas possible. Et la disparition de Néandertal, c'est à la fois tout un ensemble de facteurs qui a causé ça, la présence de sapiens, des variations climatiques, mais surtout le temps qui passe et le fait que les hommes, jusqu'à il y a quelques millénaires, étaient des espèces vivantes comme tous les autres. Certains dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années parce qu'ils n'ont pas eu de peau, ceux qui étaient là à ce moment-là, mais il y en a d'autres qui ont disparu avant, de manière naturelle, parce que c'est la loi pour les espèces biologiques, disparaître à un moment. Il ne serait pas impossible que les espèces humaines, avant récemment, et subit aussi ces conditions-là et disparaissent de temps en temps, comme c'est arrivé pour une vingtaine d'espèces humaines qu'on a pu découvrir.
Merci beaucoup, en tout cas Antoine Balzo, pour ces précisions sur la colle néandertalienne, qui fait donc l'objet d'une publication dans Nature. Et puis je signale que vous êtes l'auteur d'un livre illustré, Qui était Néandertal ? L'énigme illustrée, hein, c'est le sous-titre ?
L'enquête illustrée,
et c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup à vous, bon week-end.
Merci.
Axel, à lundi.
À lundi.
Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'astéroïde Florence, qui est passé proche de la Terre le 1er septembre dernier, était accompagné de deux petites lunes. C'est le plus gros objet ayant frôlé notre planète depuis un siècle. Et la semaine dernière, lors de son observation par le radar Goldstone de la NASA, les chercheurs ont découvert qu'il ne voyageait pas seul. Deux petites lunes de respectivement 100 et 300 mètres de diamètre tournent autour en quelques heures. L'agence américaine précise que sur les 16 400 astéroïdes découverts à ce jour au voisinage de la Terre, seuls 60 sont dotés de ces mini-lunes. Florence sera de retour pour un second passage proche de la Terre en 2024 et s'en ira ensuite dans les tréfonds du système solaire pour au moins 500 ans. Les papillons monarques sont en train de disparaître en Amérique du Nord. Ils étaient 10 millions à venir passer l'hiver sur les côtes californiennes dans les années 80. Ils ne sont maintenant plus que 300 000 à revenir chaque année. Selon le dernier comptage publié cette semaine par des chercheurs américains, ces insectes emblématiques auront tout bonnement disparu dans 10 ans si rien n'est fait pour les sauver. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur ces insectes migrateurs, les plus lourdes sont les pesticides, la fragmentation de leur lieu de migration et bien sûr le réchauffement climatique qui décale leur période de voyage. Et puis les larges convois de cargo attirent la foudre en mer. Cette étonnante conclusion nous vient d'une équipe américaine qui remarque qu'en mer de Chine et dans l'océan Indien, la foudre frappe deux fois plus souvent sur les grandes routes de commerce maritime que les centaines de kilomètres alentour. Bien sûr, il reste rare que la foudre frappe directement un porte-container. Elle frappe autour, mais les chercheurs expliquent que ce sont certainement les gaz d'échappement issus des moteurs des bateaux qui créent un terrain favorable aux orages et aux décharges électromagnétiques.